Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 115e émission. Gilles Bouget, Pascal Rullier, dans votre micro hebdomadaire préféré sur les logiciels libres et leur actualité. Bonsoir, Pascal.
Bienvenue à tous et à toutes sur les différentes radios Divergence FM 93.9. N'oublions pas Radio Escapade qui nous rediffuse sur le 104.1, 103.3. 102.0 et puis CKIA, nos amis du Québec sur le 88.3.
Que nous nous réjouissons d'avance de rencontrer physiquement lors des rencontres mondiales du logiciel libre qui ne sont pas au sommaire de cette 115e divergence numérique, mais qui seront au sommaire de la prochaine, puisque pour clôturer la saison 24 Boulevard Pasteur de Divergence Numérique avant Radio RMLL, eh bien, ce sera bien sûr l'occasion de faire un survol des nombreux thèmes et intervenants qui auront lieu. Mais pour cette semaine, évidemment, ça se démarrera par l'indispensable revue de presse de l'April. L'April dont il sera abondamment question par Emmanuel Charpentier et Luc Fievet qui nous parleront du Conseil d'État, de la fin de Google / Linux, de la révolution qui a déjà commencé ou déjà fini, de 41 pays sauf la France qui approuve le rapport de l'ONU sur la liberté et Internet. Et puis vers un nouveau régime de propriété intellectuelle au Royaume-Uni ou encore une nouvelle interview de Richard Stallman sur lemonde.fr. Mais pas que, puisqu'on fera un retour grâce à IntelliN TV, un retour sur la dernière édition de l'Open World Forum qui se tenait du 30 septembre au 1er octobre 2010 à Paris. Avec un débat avec Tanguy Morlier, président de l'April, et puis Patrice Bertrand, président du Conseil national du logiciel libre, un débat animé par Philippe Newbourg de IntelliN TV, la web TV apprenante. Suite à quoi, on fera un petit retour, Pascal, sur une install party qui se tenait chez nos amis gardois.
Tout à fait, à Vergès, le 18 juin, c'était leur première install party qu'ils organisaient, donc une petite interview du président de l'association Guerre Linux.
Et puis musicalement, c'est un demi-JET2, c'est compliqué.
Un demi-2GT2. C'est une formule mathématique.
Un demi de GT2. Ah, je vois que...
Ça te rappelle des souvenirs,
oui,
peut-être.
Oui, ça me rappelle Trimotulbilène.
Non, pas lui. Ça, c'était de la chimie, ça, c'est de la physique, c'est la chute des corps, c'est le déplacement vertical quand tu lâches un corps à un instant donné. Ça te donne l'abscisse verticale.
D'accord. L'abscisse, tant pis pour Blanche-Neige, ça aurait été l'abcès, il y aurait eu les nains, mais voilà, je ne comprends rien aux algorithmes mathématiques, c'est tant pis pour moi.
Ce sont des Montpellierains, ils officient voilà. Au premier baiser, au festival Premier Baiser
au Vigan.
Oui, au Vigan, tout à fait. C'est le 25 juin.
Voilà, ce week-end. Donc pour des expérimentations psycho acoustiques qui nous accompagneront tout au long de cette divergence numérique.
Les nouvelles du front.
Les nouvelles du front, c'est la revue de presse hebdomadaire de l'April pour cette semaine 24.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 24 de l'année 2011. Salut Benu.
Salut Luc.
Au sommaire, aujourd'hui, cette semaine.
Alors, à peine 6 articles, et il y en a un petit peu, c'est certains qui sont du rond pompé. Donc, on a du Conseil d'État et de la taxe copie privée. Une petite anecdote sur l'arrêt de la recherche Linux sur Google. Oui, hein, c'est un peu étrange. La révolution qui a commencé ou qui est peut-être en train de se terminer. Là, il y a un rapport de l'ONU et la France qui s'illustre de manière bien négative. Les deux derniers, c'est la propriété intellectuelle au Royaume-Uni et un autre article du Monde sur Richard Stallman.
Un premier article, PC Impact, Conseil d'État, plus de taxes copie privée sur les supports pro, par Marc Ries.
Alors la taxe de copie privée, tu te rappelles de ce que c'est ?
Alors c'est un truc, c'est magique. C'est-à-dire que, considérant que vous êtes potentiellement un voleur, à chaque fois que vous achetez un support vierge,
vous payez une taxe en fonction de la taille de ce support pour tout ce que vous pourriez mettre comme contenu, j'aime pas d'ailleurs ce mot contenu, je sais pas pourquoi je l'utilise, mais tout ce que vous pourriez mettre comme musique, film, etc. sur ce support vierge. Donc supposant que vous pourriez le faire, on vous taxe.
Mais c'est génial, moi. Pourquoi ils n'appliquent pas la même règle dans les vrais vols de la vie de tous les jours? On devrait piquer un peu d'argent à tout le monde pour compenser les quelques gens qui ont volé quelque chose.
Oui, bah ça fonctionne comme ça au supermarché. Hein. Tu as les vols qui sont intégrés dans le prix de ce que tu payes.
C'est mais, intéressant.
Bref, non, donc c'est ce truc assez fabuleux en fait, où il n'y a plus besoin de rien vendre. En fait. Il suffit juste d'attendre que la taille des supports augmente grâce au progrès de l'industrie.
Oui, c'est quasiment, ça double tous les 1 an et demi ou 2 ans.
Voilà, et donc après ça, bah, on voit ces revenus qui augmentent petit à petit. Hein. Il y avait des calculs qui avaient été faits sur le dernier iPod, et ça ne doit pas être le dernier parce que ça remontait un petit peu loin. Vous voyez, si on remplissait un iPod 160 gigas, je crois, avec que de la musique légale, ça coûtait le prix d'une Porsche d'occasion.
Voilà. Ah, mais là, tu parles de la musique légale. Eux, voilà. C'est juste le support, hein, attention, parce que dessus, tu as peut-être mis de la musique illégale, hein, voilà. Méchant que tu es. Et donc là, ils nous parlent de... Alors, c'est les supports pro. Est-ce que je suppose que les entreprises qui n'utilisent pas des musiques illégales doivent quand même payer?
Voilà, alors jusqu'à maintenant, les entreprises devaient payer, c'est-à-dire sauvegarde de leur comptabilité, elles mettaient en place un serveur pour leurs applications.
Et là, ils payaient pour Johnny Hallyday et autres voilà. Amis.
Donc,
c'est magnifique.
Un truc assez intéressant. Mais ceci dit, alors donc c'est une décision hein, de la Cour de cassation, c'est ça, si je ne m'abuse.
Alors c'est basé sur sur quelque chose lié à la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Donc là, ça remonte de haut.
Voilà. Et la Cour de cassation dit, bah non, les entreprises n'ont pas à payer cette taxe pour copie privée. Moi, il y a un truc qui me chagrine quand même pas mal, hein, c'est que personnellement, je vois pas pourquoi je paierais non plus. J'ai pas besoin. Soit on prouve que je suis un voleur. Soit on dit que j'ai le droit de faire la copie privée et on me taxe dessus, mais l'un et l'autre en même temps, ça fait beaucoup.
C'est magnifique, mais tu es un coupable, on le savait déjà par avant, ça ne fait que confirmer, tu es un coupable par défaut. En tout cas, là, ils mettent l'accent sur un petit détail qui tue, c'est que bien sûr, ils ne vont pas rembourser ce qui avait déjà été perçu pour les professionnels. C'est raté pour eux, c'est dans la poche pour les autres.
Et ça entrera en vigueur dans 6 mois pour que les ayants droit aient le temps de se retourner.
Oui, de mettre en place un autre système, je suis sûr qu'ils vont trouver quelque chose. Donc alors là, oui, c'est l'anecdote. Silicone.fr, fin de la recherche Linux sur Google de David Feuget. Donc c'est vraiment une anecdote parce que je suis même pas sûr que tu le savais.
Non, moi je savais pas que ça existait ce truc.
Alors on pouvait chercher Linux sur Google, tu te rends compte?
Voilà, c'est une sorte de filtre où on allait chercher les infos relatives à Linux.
En gros, on allait chercher non pas sur google.com mais sur google.com/Linux et on avait un portail qui était centré sur la petite bébête. Hein. Et c'est vrai que moi-même j'utilisais de temps en temps, mais c'était pas non plus féroce. Et maintenant, bah, ça s'arrête. Mais j'ai regardé par ailleurs dans d'autres articles, ça s'arrête aussi pour d'autres phénomènes, d'autres communautés qui utilisaient aussi cela. Donc, je m'en rappelle plus de la liste. Bon, c'est une anecdote plus qu'autre chose. Je pense qu'on peut passer à la suite.
Oui, chef. Alors la suite donc, AgoraVox, la révolution a déjà commencé par Jean Zin.
Peut-être même en train un peu de se terminer, non?
Bah, c'est toi l'expert en la matière, moi j'ai suivi ça d'assez loin. Bon, l'article, Alors, si je puis me permettre une critique, mon cher Manu, je trouve un petit peu... un peu hors sujet quand même.
Ah mais non. Non, là je suis pas d'accord. C'est qu'en fait, effectivement, là, ils sont en train de mettre le clou dans le cercueil, la French Revolution. Ils ont bien remarqué que ça a démarré en grande partie parce qu'en Espagne, ils étaient en train de placer des limites sur l'Internet. Et tout ça a démarré de là-bas, et c'est là-dessus que ça a vraiment fait boule de feu.
Boule de neige, on dit.
Boule de neige, ouais, magnifique. Et que, eh bien, voilà, c'est vraiment là que ça a fait bouger les jeunes, et ils ont pris ça en main. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette révolution, elle est essentiellement basée sur des concepts modernes, et elle inclut de base les notions de logiciel libre. Donc l'article lui-même en reparle.
Ouais, il fait quand même la confusion entre logiciel libre et gratuit.
Là, j'ai peur que le journaliste lui-même ne soit pas forcément au point. Mais je sais que les petits jeunes qui sont en train de s'indigner ont toujours ça en tête. Et les Tunisiens qu'on a suivis dans d'autres articles, eux aussi, continuent à mettre en avant. Alors, parfois l'open source, parfois le logiciel libre. Mais en tout cas, des concepts de liberté dans les infrastructures logicielles, autant que dans le reste. Donc là, malheureusement, l'article fait montre d'un peu de pessimiste. La French Revolution, elle n'a peut-être pas super bien démarré en termes de simplement d'effet, parce que bon, on n'est peut-être pas assez indigné en France pour l'instant, mais bon, il y a quand même eu des bases qui étaient posées, il y a eu des discussions, il y a eu des mécanismes.
Ah oui, il fait remarquer qu'en France, on n'a pas la même pression sur les questions de notation et de politique d'austérité qu'on n'a pas encore. Oui, il appelle à la fin à se bouger les fesses et à échanger des idées, à faire des documents de propagande et à communiquer et à échanger des idées. Parce qu'il trace toute une série de liens entre l'écologie, la drogue, le logiciel libre, tout ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde le suive. Enfin, ça, c'est des discours de vieux con que nous sommes. Mais en tout cas, le débat, oui, il en faut. Article suivant, article de Numérama. 41 pays approuvent le rapport de l'ONU sur la liberté et Internet. Mais pas la France. Donc par Guillaume Champeau.
Ça, c'est moche.
Ça fait mal aux fesses. Quoi ? Non, t'es pas d'accord, pas les tiennes ? Bon, ok. Donc c'est un rapport de l'ONU qui parle de, évidemment, la liberté d'expression sur Internet, le nom le dit bien. Guillaume Champeau, l'auteur, met l'accent, il reprend Corben, un blogueur assez connu, met l'accent notamment sur le fait d'interdire, le fait de couper Internet, en disant que c'est quelque chose qui devrait être contre les droits de l'expression.
Ils vont peut-être faire un peu comme certains pays scandinaves, de déclarer que c'est un droit de l'homme, ou presque.
Donc ça, c'est des choses qui sont là-dedans. L'article est peut-être un petit peu trop centré là-dessus pour faire de l'anti-adopisme. Moi, je reste un peu sur ma faim. J'aurais aimé avoir plus d'éléments sur ce qu'il y avait là-dedans. Et donc, grande nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui l'ont signé, des pays qui l'ont signé. Beaucoup de pays faiblement industrialisés du tiers-monde ou de nouveaux pays émergents. Les États-Unis, mais pas la France et pas toute une série de pays européens qui l'ont pas signé.
Oui, alors si je lis bien, donc ceux qui l'ont signé incluent la Tunisie, la Turquie, le Maroc, mais aussi certains pays de l'URSS, de l'ancienne URSS, ce qui est peut-être assez étonnant, mais ceux qui l'ont pas signé, c'est quoi ? La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne. Donc c'est les pro-Adopi et les anti-Adopi là-dedans ?
Faut voir, mais en tout cas, voilà, Sarkozy, lui, a bien mis en avant le fait qu'il voulait contrôler tout ça, donc on a un petit peu une fracture hein, qui se dessine avec d'un côté... ceux qui voudraient contrôler et ceux qui, de l'autre côté, ceux qui ne veulent pas. Moi, je trouve ça plutôt engageant, finalement, parce que, bon, on a toujours du mal à se défaire des vieux croutons qu'on peut avoir chez soi. Aux États-Unis, la loi Adopi, ça leur déplaisait pas tant que ça. Enfin, en tout cas, certaines personnes ont dit qu'ils trouvaient ça plutôt bien. Mais finalement, ils se sont engagés sur ce truc-là. Ça, c'est plutôt bien, parce que même si on a des pays européens vieux, encroutés, qui veulent contrôler le machin, ils seront débordés par le reste du monde. Et à un moment ou un autre, il faudra qu'ils s'alignent. Donc, c'est pas super glorieux, mais c'est plutôt bon signe pour la suite.
Alors, on va passer à un pays jeune, pour le coup. Donc, OVNI, Royaume-Uni, vers un nouveau régime de propriété intellectuelle de Deauville d'Avluy. Okay. Donc, un pays jeune, c'est le Royaume-Uni. Il semblerait qu'ils sont en train d'innover. Ça a l'air bien sympa.
On en a parlé la semaine dernière sur la question des brevets, là, avec l'idée que la qualité des brevets, en tout cas, la possibilité de les recevoir soit évaluée.
Crowdsourcing.
Voilà, comme on dit. Là, donc, c'est un rapport très complet, fait par un professeur et un intellectuel britannique qui s'appelle Ian Hargreaves.
Ouah, t'es trop fort.
Ouais.
En tout cas, ce que j'ai repéré, c'est que il a l'air de mettre en avant pas mal de thématiques qui nous intéressent au plus haut point.
Tout à fait. Alors, il parle de droit d'auteur. Alors, il parle de propriété intellectuelle, hein, donc un terme qui en lui-même déjà est connoté et tout à fait contesté. Donc il parle des œuvres orphelines, ça c'est un sujet que tu aimes bien.
Ben oui, hein, parce que j'imagine toutes les œuvres de l'humanité qui sont dans les périodes du droit d'auteur, qui sont couvertes par défaut par le droit d'auteur, et donc le public ne les possède pas. Et donc c'est rageant, et justement c'est ça ces notions d'œuvres orphelines. Voilà,
Par exemple que dans l'édition, hein, toutes les œuvres dont on sait qu'elles datent de telle date, mais que l'auteur est perdu, c'est un pseudo, c'est on ne sait qui... Et bah, tout ça, bah, par défaut, c'est bloqué.
Voilà, exactement. Donc là, mettre en avant justement ça, ce que fait le rapport, bah, le fait qu'on doit pouvoir en faire quelque chose d'autre, mais met aussi en avant des choses toutes simples, comme la possibilité de changer de support.
Oui, puisqu'aujourd'hui, en tout cas en Grande-Bretagne, ripper son CD pour en faire un MP3 pour l'écouter dans son lecteur MP3, même si on a acheté à la fois le CD et le lecteur MP3, c'est interdit. Alors personne n'a jamais été condamné pour ça, mais ça reste interdit.
Donc là, donner des capacités là-dessus, ça paraît quand même un peu utile, même indispensable. Alors, il reparle aussi, alors la prolifération des brevets, bon, on n'a jamais eu ce genre avant, il n'y a pas si longtemps que ça, mais lui aussi, il voudrait en rediscuter. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il revienne sur la licence globale.
Oui, et tout à fait. Donc, il revient sur la question de la licence globale, qu'on avait évoquée en 2006, pendant la loi d'Avsi, comme solution alternative. Et on voit que, on va le voir d'ailleurs avec le dernier article qui parle de Richard Solman, qui a quelques sujets proches là-dedans, c'est qu'au final, on est en train de réinstaurer le machin. Donc là, c'est proposé comme solution générale, mais on va passer directement à l'article suivant. Ça va nous faire un lien intéressant. Article du Monde.fr, Richard Stallman, l'utilisateur doit contrôler le programme, pas l'inverse, par Damien Leloup. Donc c'est une interview comme fait Le Monde par chat interposé. Donc les internautes peuvent aller poser leurs questions à l'invité qui répond par chat.
Oui, il profite de l'avenue de Stallman en Europe. Hein. Je pense que ce qui se culminera probablement par son passage au Romeleleu à Strasbourg dans 2-3 semaines. Et donc c'est toute une discussion donc, sur les sujets que Stallman défend avec vigueur depuis longtemps. Et il reparle à chaque fois, il y a plusieurs sujets, donc on peut peut-être les
discuter. Voilà, parler du téléphone portable où il explique que voilà, c'est un outil de surveillance qu'il n'en a pas exact, etc. Les logiciels comme service sur Internet où il dit que bon, la question c'est pas ça, la question c'est savoir est-ce qu'on est ou pas mettre nos données, est-ce qu'on peut se garantir que ces logiciels sont utilisés, enfin, qu'on n'utilise pas nos données pour nous surveiller, et que dans ce cadre-là, que le logiciel soit libre ou pas libre, ça ne change pas grand-chose au sujet. Bah, sur les questions, pour revenir...
Moi, je vois les données personnelles qui doivent rester personnelles, y compris quand on passe par des constructeurs comme BlackBerry et RIM. Je sais que Skype, par exemple, vient de s'ouvrir aux autorités russes, hein, parce que bah, ça leur fait plaisir.
Aux autorités, oui.
Oui, n'est-ce pas?
Et il parle également de DRM, là on revient sur nos sujets tout à l'heure, bah, où il fait remarquer, bah, toujours sur cette question de logiciel comme service, bah, tous ces services d'accès de musique en ligne, on peut parler
de Spotify, Deezer
en France, ça fait du bruit. On disait vous n'avez pas besoin de posséder la musique, etc., puisque vous pouvez la voir en streaming sur Internet. Bah, il suffit que Deezer change la nature de son service. Enfin, Apple a fait la même chose avec l'iPad et ce genre de trucs, ben hop, vous êtes foutu. Alors que quand vous avez votre CD, ben c'est votre CD et vous en faites ce que vous voulez. On réévoque la question du Royaume-Uni dont on parlait tout à l'heure, et sur la question du droit d'auteur et de la brevetabilité.
Donc lui, il met en avant le fait qu'il part d'un point de vue erroné, hein, c'est qu'ils utilisent le concept de propriété intellectuelle. Mais ça, c'est sa marotte à lui, il le répète.
Si on veut fâcher Richard Solman, rien ne vaut la propriété intellectuelle, c'est le meilleur moyen de le mettre en colère.
Il est déjà sorti d'une table ronde, on en a entendu parler pas mal, il avait vraiment fait une colère tout rouge, parce que tout simplement, le concept, il peut l'utiliser, mais pour le combattre. Donc il est hors de question qu'il lui mette une valeur quelconque et une réalité quelconque. On ne possède pas l'intellect, hein, n'est-ce pas? Donc moi, ce que je voyais de particulièrement intéressant, c'est que lui se bat là-dessus depuis longtemps. Il avait proposé donc, la licence globale pour rémunérer tout de même les artistes, hein, pour qu'ils arrivent à vivre, et que finalement, cette licence globale, elle est en train de se mettre en place.
Ouais, mais elle se met en place du point de vue justement des ayants droit, qui au travers de solutions type
Deezer, Spotify,
ou des trucs de téléphone portable, etc., touchent eux l'argent et font chacun leur licence globale à eux sur leur catalogue et se gardent l'essentiel de l'argent. C'est des trucs qui avaient été dites en 2006-2007, on l'a vu venir gros comme une maison.
Elle est pas belle la vie, franchement.
Voilà. Bon, bien Manu, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Luc et à la semaine prochaine Divergence.
Salut tout le monde.
Voilà, vous retrouvez les liens vers les articles et vers la page de l'April consacrée à cette revue de presse. Vous retrouvez ça bien sur divergence-fm.org sur l'article de l'émission du jour. Et à présent, on va bien respirer un petit peu avec nos Montpelliérains de 1,5 de GT2. Cette fois-ci, je l'ai bien dit.
Oui, tout à fait. Ils sont Montpelliérains. Ils font de l'expérimentation psychoacoustique. On va écouter Res Publica. C'est en licence Creative Commons NC Sampling Plus 1.0 en autoproduction. Voilà. Et c'est tout de suite sur Divergence numérique.
Aristocratie, patriarcat, république, génération, dictatorie, hiérarchie, aristocratie, Vraiment, la valeur des choses se mesurait d'après le degré de leur utilité sociale ou individuelle. Le système des valeurs humaines devait être révisé et bouleversé de compte en compte. Car la place qui est faite aux valeurs de luxe serait, de ce point de vue, incompréhensible et injustifiable.
C'est 3 minutes 30, vous aidez proposé par un demi de GT2 des Montpelliérains qui, sur ce titre Res Publica, nous propose de découvrir leur musique qui est sous licence Creative Commons Sampling Plus 1.0 qu'on retrouve évidemment sur l'incontournable dogmazic.net.
Absolument, dogmazic.net avec tous les liens justement sur l'article de l'émission de Divergence Numérique.
Se tenait au mois d'octobre 2010 l'Open World Forum. On essaiera d'y aller l'année prochaine, mais ça a l'air très très business et très très
Open World.
Luxueux hein, comme salon. En tout cas, c'était un salon où étaient présentes IntelliNTV qui ont bien réuni Tanguy Morlier, président de l'April, et puis Patrice Bertrand, président du Conseil National du Logiciel Libre, pour parler du rôle de chacun et répondre à la question proposée par Philippe Newbourg qui animait ce débat. Mais pourquoi avoir créé la CNLL si l'April existe ?
Le monde du logiciel libre est un monde avec beaucoup d'associations et nous en avons deux parmi les plus importantes qui sont autour du plateau aujourd'hui. Et je voudrais vous présenter tout d'abord Tanguy Morlier qui est le président de l'April. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Et puis Patrice Bertrand, Smile, on vous connaît sous cette étiquette-là, mais également comme président du CNLL, le Conseil National en Logiciel Libre, c'est ça hein ?
C'est ça.
Ça fait très pompeux, Conseil National. On a l'impression que c'est étatique, il y a NKM est derrière hein.
Non, nullement. C'est purement une réunion d'association. Je pourrais en parler un peu plus.
Alors voilà, on va peut-être commencer par vous donner la parole à chacun pour que vous expliquiez un petit peu le positionnement et la mission de chacune de ces associations. Alors Patrice, on va commencer, on a parlé du...
Je commence. Le CNLL est bien plus récent que l'April, puisqu'il a été créé en début d'année par la réunion de grandes associations du logiciel libre en France, régionales, qui, pour beaucoup d'entre elles, avaient également une longue vie derrière elles, mais qui étaient désireuses de trouver à la fois une représentation au niveau national et puis le moyen de faire le lien entre elles, c'est-à-dire de partager des pratiques, de partager... également des relations d'entreprise à entreprise. Donc il y avait une dizaine de grandes associations d'entreprises du logiciel libre en France, dans différentes régions de France, certaines parisiennes, PACA, l'Ouest, le Sud-Ouest, etc. Et le CNLL, c'est la réunion ou la fédération, on peut dire, de ces associations
Elles ne se sont pas dissoutes. Hein.
Nullement. Elles ne se sont pas dissoutes. Chacune a une vie très active de son côté. Mais lorsqu'il s'agit d'échanger entre elles ou de mener des actions communes qui dépassent le niveau régional, alors elles peuvent s'appuyer ou être relayées par le CNLL.
Et alors le CNLL, si on additionne les membres de l'ensemble des associations qu'il compose, ça représente à peu près quoi ?
Un peu plus de 200 entreprises.
D'accord. Donc quand vous dites entreprise, c'est à la fois des utilisateurs et éventuellement des développeurs ?
Non, alors il y a une majorité de petites entreprises. Hein. On a publié une étude en juin qui faisait un peu la cartographie des typologies d'entreprises, leur taille, mais aussi leur type d'activité, etc. Donc on a une vision assez précise de tout ça. Majoritairement, il y a des petites entreprises, disons moins de 5, moins de 10 salariés. Quelques plus grandes, mais en tout cas, ce ne sont que des entreprises. Il n'y a pas de simples utilisateurs dans les adhérents de ces associations.
Alors l'April, on a l'impression que vous êtes aussi ancien que le logiciel libre, presque. Vous défendez en tout cas le flambeau depuis des années. Hein.
Depuis 96, oui, effectivement. Donc on est une des associations pionnières dans la promotion et la défense du logiciel libre.
April, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent mal, ça la signification de l'acronyme.
Alors c'est l'association de promotion de l'informatique libre. Originellement, c'était promotion et recherche en informatique libre.
D'accord.
C'est vrai que là, le pôle recherche est un petit peu moins. On se concentre essentiellement sur la promotion et la défense.
D'accord. Et donc, depuis les années 90, votre mission, c'est la promotion uniquement ou également d'aider les entreprises à s'organiser ?
Alors, on a... en fait, on essaie d'être à l'image du logiciel libre. Donc, il y a 5000 membres qui font partie de l'April. Et eh bien, il y a des utilisateurs, des citoyens qui sont motivés par le logiciel libre, des développeurs. Mais on a aussi des personnes morales. On a 300 personnes morales, des entreprises, des associations. Donc, on essaie comme ça d'être à l'image de l'écosystème pour mieux pousser tous ensemble ce qui nous semble important, le logiciel libre.
Alors, quand on vous écoute, on a quand même un peu l'impression que vous défendez les mêmes buts, que vous allez dans les mêmes directions.
Ah bah, on va dans les mêmes directions, ouais. Ça c'est sûr.
Et vous n'êtes que deux autour de la table, on aurait presque pu remplir une salle entière d'associations qui ne font que promouvoir et défendre le logiciel libre. Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de se diviser en associations, en quelque
Alors,
sorte
c'est pas, hein. c'est pas la division, c'est de la complémentarité. Nous, on intervient dans toutes les sphères d'influence pour faire de la promotion générale. Le CNL va être plutôt, avec fort de son terreau régional, avec tous les clusters qui sont membres du CNL, va plus travailler sur de côté business, de la mutualisation, il me semble. Et donc, on a un travail complètement complémentaire pour aller voir, je ne sais pas si Patrice a le temps, d'aller voir des députés, d'aller voir des cabinets de ministres, ce genre de choses.
Patrice, vous êtes d'accord là-dessus ? Ils font le lobbying et puis vous faites du vrai travail hein ?
Je n'aurais pas exprimé comme ça. Il y a, disons que l'April a des combats qui recouvrent le monde de l'entreprise ou la sphère économique, disons, mais qui vont au-delà dans des combats, disons, citoyens, sociétaux ou de consommateurs pour certains. Hein. Et je dirais que certainement la plupart des entreprises ou des dirigeants d'entreprises constituant le CNLL approuvent et soutiennent ces combats. Mais néanmoins, ça n'est pour certains d'entre eux, ça n'est pas la mission principale du CNLL. En revanche, il y a des combats qu'on a en commun. Et d'ailleurs, il y a à peine deux semaines, on commençait à préparer une action commune entre l'April et le CNLL pour défendre la non-discrimination dans les marchés publics, c'est-à-dire obliger les marchés publics à respecter cette exigence légale qui est de ne pas spécifier un produit particulier, un produit propriétaire malheureusement le plus souvent, mais d'ouvrir à des solutions équivalentes dont on espère que les solutions libres seront les meilleurs tenants.
Alors là, vous retrouvez bien finalement sur ce côté lobbying de l'April et puis l'impact business que ça a pour les entreprises membres du CNLL.
Mmh. C'est totalement complémentaire. Au CNLL, vous travaillez aussi sur des choses, des éléments de mutualisation business, de répondre à plusieurs appels d'offres. C'est pas le rôle de l'April de faire ce genre de choses. Nous, on évangélise et puis après, il faut des entreprises pour répondre aux appels d'offres. Il faut des entreprises compétentes. Il faut faut un réseau pour savoir à qui je dois m'adresser quand j'ai un besoin, quand une entreprise a un besoin en termes de logiciels libres. Et donc ça, c'est des actions qui sont totalement complémentaires. Et certaines sont hors scope de l'April, et donc c'est très bien que d'autres les portent, et les portent beaucoup mieux que nous.
Il y a quand même une grosse inflation hein, du nombre d'associations qui se créent autour de ce monde du logiciel libre, sachant que chaque fois qu'on adhère à une association, c'est du temps à passer, des réunions, etc., si on veut être actif. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même besoin d'un peu de structure là-dedans? Si on prend l'exemple du monde propriétaire, je sais pas, on a l'association française des éditeurs de logiciels, je crois, c'est l'AFDEL, c'est ça, qui organise, et il y en a qu'une, et puis il y a le Syntec.
En fait, quand on regarde un petit peu plus, il y a un petit peu mieux, le logiciel propriétaire est beaucoup plus varié que simplement l'AFDEL. Mm-hmm. Je pense que la force du logiciel libre, c'est la communauté, et pour bien s'organiser, la communauté, elle a besoin d'associations. Parce que quand je suis développeur d'une solution que j'ai développée pas forcément de manière professionnelle, j'ai besoin d'une personnalité morale pour la gouvernance de ce projet-là, et donc c'est logique que ça se passe par des associations, et donc chacun a un peu ses spécificités moi j'ai pas du tout l'impression qu'il y a une inflation particulière. Le logiciel libre est de plus en plus utilisé, de plus en plus visible. Donc effectivement, il y a de plus en plus de gens qui s'en occupent, il y a de plus en plus de projets qui émergent. Et ce n'est que bon. C'est comme dire que dans un écosystème, que le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises, ce soit nuisible. Ah, moi, je ne crois pas du tout. Plus on a d'entreprises, plus on a de saine concurrence et plus des projets innovants peuvent apparaître. C'est la même chose en logiciel libre, sauf qu'il y a une complémentarité entre, d'un côté, la sphère purement business et de l'autre côté, la sphère associative, citoyenne. Et le logiciel libre fonctionne de manière bicéphale. Il y a deux jambes, la communauté et l'entreprise. Donc nous, on essaye d'associer ces deux jambes. Et puis, pour être parfois plus efficace, c'est plus important d'être uniquement communauté ou uniquement business.
Est-ce que vous êtes toujours d'accord sur tout ?
Sans doute pas, mais on n'a pas encore bien identifié.
En tout cas, je serais bien incapable d'effectivement identifier nos points de désaccord.
Il y a par exemple une tendance évidente aujourd'hui dans le monde du logiciel libre, on le voit au travers des partenaires de Open World Forum, vers de plus en plus d'éditeurs de solutions open source commerciales où l'aspect business est parfois pointé du doigt par la communauté comme parfois même une dérive. Est-ce que c'est un point sur lequel vous avez des discussions et éventuellement des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord?
Oui, j'imagine qu'en cherchant bien, l'April serait peut-être plus intransigeante sur certaines pratiques, d'une manière, alors que CNLS, je dirais qu'on est peut-être un peu plus indulgent, considérant que au-delà des pratiques commerciales, chacun de ces acteurs a malgré tout une contribution et parfois très forte, très importante au patrimoine de logiciels libres disponibles. Après, les manières d'essayer de faire une entreprise rentable en s'appuyant sur tout cet effort de développement, elles sont diverses. Certaines sont critiquables, mais globalement, ils font naître des logiciels qui n'auraient sans doute pas existé si ces acteurs nouveaux n'avaient pas été là. Donc, nous, on est relativement ouverts à ces acteurs, mais en complément, je dirais, des projets plus communautaires ou de fondations qui forment malgré tout le socle du patrimoine open source.
Nous, on est attentif à ce qu'est un logiciel libre. Un logiciel libre, c'est 4 libertés. Et voilà. Donc, si jamais, effectivement, des gens se font passer pour membres de la communauté du logiciel libre alors qu'ils ne respectent pas ce génome-là, ça nous semble s'apparenter à la publicité mensongère. Donc, c'est juste ce qu'on peut faire savoir.
D'accord. En conclusion, peut-être pour se pencher vers le futur, vos grands combats pour 2011, c'est quoi les sujets qui vont être importants sur lesquels vos associations vont se positionner, l'April par exemple?
Comme l'expliquait Patrice, en ce moment on travaille ensemble sur des problématiques de marché public. On travaille également sur des problématiques de migration, spécialement dans la sphère publique. On a beaucoup travaillé sur ce qu'est l'ACTA pour essayer d'éviter que que les DRM, ces verrous, ces menottes numériques ne réapparaissent. Ce qui peut être nuisible à l'innovation. On a de multiples projets poussés par plein de groupes de travail. Donc on va avoir une année bien intense.
D'accord. Et le CNLL ?
Eh bien, de mon côté, il y a un combat que nous avons lancé cet été et qui me tient beaucoup à cœur, c'est de militer pour l'existence de fondations reconnues d'utilité publique en France, fondations consacrées au logiciel libre comme une typologie nouvelle de fondation. Qui, de par la reconnaissance d'utilité publique, pourrait donner le bénéfice de la fiscalité des fondations aux donateurs qui feraient des dons soit en code source, soit en temps homme à ces fondations. On pense que ce serait un moteur phénoménal pour stimuler le développement de logiciels libres en France et donner aussi une plus grande part dans la gouvernance de projets open source aux contributeurs
concrètement,
français.
Concrètement, si une SS2I, par exemple, mettait à disposition des ingénieurs, elle en retirerait un bénéfice fiscal
Voilà, c'est ça, exactement. Comme lorsqu'elle fait du mécénat envers une fondation reconnue d'utilité publique, à condition, bien sûr, que cet effort contribue à du logiciel réellement libre à tous égards.
C'est un combat avec lequel vous serez d'accord également.
Oui, bien sûr. Patrice m'a parlé de son projet. On l'a un petit peu aidé là-dessus. Il se trouve que effectivement le don en nature est autorisé. Et puis, il faut essayer de trouver une gouvernance qui permette de s'assurer que ce soit effectivement pour du logiciel libre. Et je pense que c'est toute la difficulté de cette entreprise. Mais si ça émerge, ce serait vraiment super.
Et, si je peux ajouter un dernier mot, je pense qu'en tout cas... ce qui est clair depuis pas mal d'années maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la sphère économique et la sphère citoyenne en matière de logiciels libres. C'est-à-dire que l'utilisation de logiciels libres dans la sphère économique qui est promue et déployée par les entreprises du logiciel libre est vital en fait pour le dynamisme du logiciel libre.
C'est vraiment la métaphore des deux pieds. S'il y en a un qui avance, il faut que l'autre avance aussi. Et donc c'est clair que quand le business autour du logiciel libre avance, la communauté en profite. Et quand la communauté avance, le business en profite. Donc cette innovation est sociale, sociétale et économique est hyper importante.
Pour terminer, on va rappeler juste les sites web où on peut trouver les informations sur l'activité de vos associations, l'April.
April.org.
Voilà, et le CNLL.
CNLL.fr.
On remercie Philippe Newbourg. C'était un sujet proposé par Intellien TV sur le site de laquelle vous pourrez retrouver eh bien, la version vidéo de cette interview ainsi que de tout plein d'autres. Un site qu'on vous recommande chaudement.
Et oui, puis tous les sujets sont en Creative Commons by SA, soulignons-le quand même.
Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on se permet de vous le diffuser comme ça, au débeauté. Un demi GT2 nous accompagne aujourd'hui pour cette 115e divergence numérique avec à présent, eh bien justement, tu nous parlais tout à l'heure de l'abscisse, puisque un demi GT2, c'est la formule mathématique de la chute des corps.
En fait, c'est pas pour l'abscisse, pour l'ordonnée.
Ah d'accord.
C'est le Y égale 1/2 de GT2.
Tout ça est très désordonné dans ma tête.
Le X, c'est en fonction de la vitesse. C'est les trajectoires paraboliques, etc.
Mais bien sûr, où avais-je l'athlète ? 2 minutes 39 pour ce abscisse, toujours sous licence Creative Commons Non-Commercial Sampling Plus 1.0.
Comment fixer un objet au plafond ? Percer un trou dans le plafond au diamètre de la vis choisie à l'aide d'un tamponnoir ou d'un vilebrequin muni d'une mèche spéciale. Premier cas, vous rencontrez le vide d'entre solives et il vous suffit d'introduire dans ce trou votre vis à ailette ou à bascule, ailette ou bascule étant réglée, et de visser. « Deuxième cas. Vous rencontrez le lati. Continuez le trou à la mèche à bois de manière à rompre le lati juste à la largeur des ailettes et retrouvez le vide. Procédez ensuite comme précédemment. Troisième cas. Vous rencontrez la solive. Remplacez la vis à ailette par un tire-fond que vous visserez dans la solive. Quatrième cas. Le plâtre sera trop épais et vous ne pourrez atteindre le vide. Élargissez alors le fond du trou avec un tournevis. Prenez une vis à ailette, introduisez-la dans le trou, puis vissez.
La musique de 1,5 GT2, des Montpelliérains qui expérimentent la psychoacoustique, tandis que les Gardois, eux, expérimentent allègrement le logiciel libre, ça bouge dans le Gard.
Oui, tout à fait, puisque l'association Gard Linux, fraîchement créée, a organisé sa première install party à Vergès le samedi 18 juin. J'y étais, et puis j'ai pris quelques sons de son président, Jean-Daniel Bonatou, qui était donc à mon micro pour parler de cette première install party. On écoute. Alors, nous sommes le samedi 18 juin 2011 à Vergès, et je suis en présence du président de l'association Gard Linux, pour cette install party. Déjà, peux-tu présenter Gard Linux, qui est une jeune association gardoise, justement orientée sur Linux?
Mais effectivement, on s'est réunis depuis septembre 2009 sur Nîmes, et on a concrétisé là dernièrement, au mois de mai 2011, cette association par le dépôt des statuts en préfecture. Alors, association qui est... composé de 6 adhérents pour le moment, qui constituent le conseil d'administration. Et on espère que ça puisse bien marcher. Et déjà aujourd'hui, on a de nouveaux adhérents.
Pour ceux qui écoutent l'émission, vous vous réunissez régulièrement, mensuellement sur Nîmes. Est-ce toujours le cas?
Alors, on se réunissait régulièrement sur Nîmes, mensuellement, oui. Ça a été le cas jusqu'au mois de mars 2011. C'est vrai qu'on était plus orienté là sur la préparation de l'install party, et c'est quelque chose qui correspondait pas vraiment à nos besoins en termes de préparation de l'événement. C'est pour ça qu'on a laissé tomber ces réunions mensuelles au restaurant Crocobio, par exemple.
Donc là, vous vous êtes concentré sur la préparation de cette install party. C'est votre premier événement, si j'ai bien compris?
Oui, tout à fait, c'est notre premier événement. Bon, on a assisté à quelques expériences sur des événements organisés par Montpellier Libre, ce qui nous a permis de venir en pleine confiance sur cet événement-là à Vergès.
Alors pourquoi Vergès?
Alors Vergès parce que c'est un lieu qui pouvait nous accueillir, qui nous a proposé de nous accueillir. On a essayé sur Nîmes auprès des différents centres socioculturels. Bon, on n'a peut-être pas présenté le dossier exactement comme il fallait, mais Vergès par contre a tout de suite dit oui à notre installation ici et nous a accueillis.
Donc le centre culturel Marcel Pagnol a dit oui, venez, j'ai une salle à mettre à disposition, j'ai des moyens. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé finalement?
Alors dans un premier temps, c'est un hébergement qui nous a été proposé, effectivement des locaux et une adresse pour le siège social de l'association. Ce qui nous a posé des difficultés sur Nîmes n'a pas posé de problème sur Vergès. Donc c'est déjà un très bon élément. Ensuite, c'est vrai qu'on a pu organiser cet événement sans avoir de demande particulière de leur part, si ce n'est tout ce qui est présent pour toutes les associations, à savoir statut et puis assurance. Donc voilà, ça s'est fait très tranquillement.
Donc vous êtes maintenant présent au centre culturel Marcel Pagnol, vous assurez des présences régulièrement à ce centre-là, à Vergès?
On assure, non, pas spécialement des présences régulières, c'est quand même pas... Je dirais, c'est pas un club, quoi. On n'est pas là pour faire tous les samedis de l'informatique, monter des ordinateurs et installer des logiciels. On est vraiment là pour se réunir, donc des réunions qui sont ponctuelles à la demande en fonction des besoins et qui nous permettent de préparer les événements. Mais c'est effectivement plus serein de faire ça dans une salle accueillante avec le réseau internet que de faire ça, je dirais, dans la nature, dans un restaurant à droite ou à gauche où on ne discute pas forcément très tranquillement. Et en particulier, on se réunissait le jeudi qui n'était vraiment pas le bon jour, où il y a énormément de lieux qui font de la musique en même temps. Donc c'était vraiment pas possible pour nous.
Et sur cette install party, qu'a-t-elle de particulier, justement, cette install party, comme c'est la première? Comme vous avez vu d'autres install parties faites par l'autre association héraultaise Montpellier Libre, votre touche personnelle là-dessus?
Pas de touche personnelle, si ce n'est l'ouverture vers un grand nombre de distributions qui étaient proposées en démonstration. On avait 8 ordinateurs pour 8 distributions différentes. Donc ça permet au public de découvrir vraiment des choses qui sont vraiment différentes, quoi, d'aspects, de fonctionnement. Et on a les dernières versions avec GNOME 3 qui sont vraiment surprenantes pour les utilisateurs habitués de longue date à Linux, mais qui sont apparemment très intéressantes pour les néophytes.
Le public qui est venu à trouver, à s'intéresser, savait ce que c'était, venait découvrir, quel était le public?
Alors effectivement, le public que nous avons eu était un public qui connaissait un petit peu Linux, qui avait une pratique, je dirais, débutant voire amateur en Linux, et butait sur certaines difficultés et ont profité de l'occasion pour trouver des réponses. On était effectivement assez nombreux à encadrer cette install party et ça a permis d'aborder beaucoup de problèmes techniques. Ouais.
Des gens sont venus avec leur machine dire voilà, je veux Linux, installez-moi Linux, ou je ne sais pas ce que c'est, montrez-moi.
On n'a pas eu ce genre de public aujourd'hui. Ça pourrait tout à fait s'imaginer.
Votre prochain événement, vous l'avez déjà prévu, vous avez une idée, on se retrouve à la rentrée, vous refaites de l'install party, vous faites d'autres choses?
Le prochain événement, on devrait prendre rendez-vous avec l'espace public numérique, c'est ça, de Nîmes, qui travaille avec la médiathèque du Carré d'Art. Donc ça devrait se faire courant premier trimestre, enfin à la rentrée scolaire, quoi. Oui, tout à fait. Ensuite, on envisage de faire des ateliers logiciels libres et pas spécifiquement install party. C'est vrai que le logiciel libre, ça intéresse aussi bien les utilisateurs de Windows, alors que pour se lancer dans l'aventure Linux, il faut vraiment être plus assuré, quoi.
Et cette partie d'atelier se passerait où ?
Je pense que oui, ça se passera ici, tout du moins pour la première, oui.
Comment vous contactez ?
Donc nous avons une boîte aux lettres garlinux@gmail.com et un site internet, donc www.gar-linux.org, sur laquelle on peut nous contacter. Sinon, les informations sont passées aussi sur la liste gulnim@google.com.
Vous avez bien compris que dans le Gard, ça bouge. Et puis le président de l'association a une voix super radiophonique.
N'est-ce pas, hein ? C'était son premier micro. Hein, faut bien commencer un jour et il passe très bien.
Carrément, on va l'inviter en studio exprès pour ça. Avant de se quitter en musique avec un nouvel extrait bien des artistes du jour, les Montpelliérains de 1,5 de GT2, bien un petit tour par les agendas du libre, à commencer par agendadulibre.org pour tout ce qui se passe dans l'Hexagone, avec évidemment pas mal de choses, même si on touche à la fin de l'année scolaire. Des soirées Gully Geeks à Rennes le 24, des journées Pearl 2011 à Paris le 24 aussi, ou à Téhéran, les ateliers libres de Montpellier Libre autour des notions PC. Que dire qu'il y aura une journée GNU Linux et logiciels libres à Carpentras le 25, à Courcouronnes, c'est mignon, une mapping party de OpenStreetMap, à L'Aigle, un éco-village à Paris, les journées Pearl 2011 qui se poursuivent, et puis à Toulon, les journées découvertes logiciels libres. Le 26, ce sera toujours l'éco-village de L'Aigle, et puis pour le 28, Brignoles, avec la réunion mensuelle de Gullivar. À Castelnau-le-Lez, il y aura, juste à côté de Montpellier, les ateliers libres, la section GNU Linux, et puis à Lille, Ch'tinux, c'est la permanence autour du libre. libre à Rennes, les soirées conférences IPv6 à Téran, les ateliers libres de Montpellier libre autour des notions PC, toujours le 28, et puis un atelier libre à Vire. Le 29, c'est à Annecy qu'il faudra être pour l'université d'été du CMS libre type O3, tandis qu'à Aix-en-Provence et à Annecy et à Troyes, ça se passera le 30 pour respectivement le dernier jeudi de Mandrex, l'université d'été du CMS libre suite et pas fin, puisque ça se poursuivra le 1er, et puis un apéro du libre à Troyes où l'on sait vivre. Le point libre Montpellier, ce sera donc ce 1er juillet, et puis... Il y aura le 2 juillet à Paris, le premier samedi du libre, à Wittenheim, la réunion du club Linux, et puis à Alger, et ben oui, même si c'est .org, GNU/Linux installe partie 3, sans oublier les rencontres mondiales du logiciel libre qui démarrent à Strasbourg par les journées grand public le samedi et dimanche 9 et 10 juillet.
Alors du côté de Québec, le même jour, le 9 et 10, il y a un World Camp à Montréal. Et aussi, c'est la fin de la semaine du logiciel libre à Montréal, également le 9 et 10 juillet. Du côté de la Belgique, à Boussu, un barbecue Interlug, très sympathique événement à ne pas manquer.
Et puis on termine donc avec, on se quitte donc jusqu'à la semaine prochaine avec un dernier extrait des artistes du jour que j'imagine tu essaieras d'inviter dans une Elle est libre ma musique.
Ouais, je vais les contacter et puis ils vont nous démontrer leur trajectoire, leur parcours musical.
En tout cas une
musique musicale
assez intéressante.
Ah tu vois, j'ai pas pris les morceaux de 10 minutes, on en écoutera évidemment d'autres dans d'autres émissions comme Elle est libre ma musique, n'oublions pas, et puis... On parlait de trajectoire d'Apsis, on va écouter maintenant leurs données.
En vous souhaitant une belle semaine, c'est sous licence Creative Commons Sampling Plus 1.0 Non-Commercial. Et puis vous retrouverez tous les bons liens qui vont bien sur divergence-fm.org.
À la semaine prochaine et soyez libres.
Lorsque nous affirmons que les soi-disant énoncés de la métaphysique sont dépourvus de sens, cette expression doit être prise au sens le plus strict. Dans un usage plus relâché, dépourvu de sens se dit parfois d'une phrase ou question stérile. Par exemple, quel est le poids moyen des habitants de Vienne dont le numéro de téléphone se termine par un 3 ? Bien encore, d'une phrase qui est notoirement fausse. Par exemple, en 1910, Vienne comptait 6 habitants. Ou d'une phrase qui est fausse, non seulement empiriquement, mais aussi logiquement, et qui est donc contradictoire. Par exemple, de ces deux personnes, A et B, chacune a un an de plus que l'autre. À l'intérieur d'une certaine langue.